« À présent, Monseigneur Robert, dit Jean de Varennes, quelle route voulez-vous prendre? Nous rendrons-nous d'abord à Saint-Paul ou bien droit à Arras? L'Artois est tout à vous, vous n'avez qu'à choisir. Quelle route mène à Hesdin? Celle où vous êtes, Monseigneur, qui passe par Frévent? Eh bien, je veux aller tout d'abord au château de mes pères. » Un mouvement d'inquiétude se dessina parmi les chevaliers. C'était bien la malchance que Robert d'Artois, dès son arrivée, voulut aussitôt courir à Hesdin. Le sire de Soistre, celui qui portait une femme nue sur la tête et qui s'était beaucoup signalé dans les tumultes de l'automne passé, dit « Je crains, Monseigneur, que le château ne soit pas bien en état de vous accueillir. »« Et quoi ? Il est toujours occupé par le sire de Brosse, qui avait placé mon cousin Hutin. »« Non, nous en avons fait fuir, Jean de Brosse, mais nous avons aussi un peu ravagé le château au passage. »« Ravagé ? » dit Robert. « Vous ne l'avez pas brûlé ?»« Non, Monseigneur, non, les murs en sont fermes. »« Mais vous l'avez un peu pillé, pas vrai, mes gentillets. Oh, si ça n'est que cela, vous avez bien fait. Tout ce qui est à Mao la Gueuse, Mao la Truie, Mao la Catin est à vous, mes seigneurs, et je vous en fais partage. » Comment ne pas aimer un suzerain si généreux? Les alliés hurlèrent à nouveau qu'ils souhaitaient longue vie à leur gentil contrebert, et l'armée de la révolte se mit en route vers Hesdin. On arriva en fin d'après-midi devant les 14 tours de la ville forte des comtes d'Artois, où le château à lui seul occupait une superficie de 12 mesures, soit près de 5 hectares. Que d'impôts, de peines et de sueurs avaient coûté aux petites gens d'alentour ce fabuleux édifice destiné, leur avait-on dit, à les protéger des malheurs de la guerre. Or, les guerres se succédaient, mais la protection se montrait peu efficace. Et comme on se battait essentiellement pour la possession du château, la population préférait se terrer dans les maisons de torchis en priant Dieu que l'avalanche passât à côté. Il n'y avait guère de monde dans les rues à faire fête au seigneur Robert. Les habitants, assez éprouvés par le sac de la veille, se cachaient. Les abords du château n'offraient rien de plus gai. La garnison royale, pendue au créneau, commençait de fleurer un peu la charogne. À la grand-porte, dite porte des poulets, le pont-levis était abaissé. L'intérieur livrait un spectacle de désolation. Des celliers s'écoulait le vin des cuves éventrées. Des volailles mortes gisaient un peu partout. On entendait des étables monter le meuglement sinistre des vaches pâtrettes. Et sur les briques qui pavaient, luxe rare, les cours intérieures, l'histoire du récent massacre s'inscrivait en larges flaques de sang séché. Les bâtiments d'habitation de la famille d'Artois comptaient 50 appartements. Aucun n'avait été épargné par les bons alliés de Robert. Tout ce qui ne pouvait être enlevé pour décorer les manoirs du voisinage avait été détruit sur place. Disparu de la chapelle, la grande croix en vermeil, ainsi que le buste de Louis IX contenant un fragment d'os et quelques cheveux du roi saint. Disparu le grand calice d'or que s'était approprié Ferry de Piquigny et qu'on devait retrouver en vente un peu plus tard chez un boutiquier parisien. Envolés les 12 volumes de la bibliothèque, escamotés l'échiquier de jaspe et de calcédoine. Avec les robes, les peignoirs, le linge de Mao, les petits seigneurs s'étaient fournis de beaux cadeaux pour leurs dames d'amour. Des cuisines même, on avait déménagé les réserves de poivre, de gingembre, de safran et de cannelle. On marchait sur la vaisselle brisée, les brocarts déchirés. On ne voyait que courtines de lit écroulées, meubles fendus, tapisseries arrachées. Les chefs de la révolte, un peu penauds, suivait Robert dans sa visite. Mais à chaque découverte, le géant éclatait d'un rire si large, si sincère, qu'ils se sentirent bientôt ragaillardis. Dans la salle des écus, Mao avait fait dresser contre les murs des statues de pierre représentant les comtes et comtesses d'Artois depuis l'origine jusqu'à elle-même. Tous les visages se ressemblaient un peu, mais l'ensemble avait grand air. « Ici, monseigneur, fit constater Piquigny, nous n'avons voulu porter la main sur rien. » « Et vous avez eu tort, mon compère, » répondit Robert, « car j'aperçois en ces images une tête au moins qui me déplaît. L'ormais, une masse !» Empoignant le lourd fléau d'armes que lui tendait son valet, il le fit tournoyer 3 fois et atteignit d'un coup formidable l'effigie de Mao. La statue vacilla sur son socle et la tête, se détachant du col, alla éclater sur les dalles.